VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 2 février 2022, en direct de Washington, Idrissa Seboudia
et Nanit Talani.
Nous commençons par les titres.
Dans quelques instants, le journal de la CAN d'Emmanuel Juntap.
Le président de la Guinée-Bissau, Oumaru Sissoko Embalo, a échappé hier à une tentative meurtrière de coup d'État. Le dernier en date d'une série de coups de force à travers l'Afrique de l'Ouest.
Au Burundi, un enfant albinos kidnappé samedi à Bujumbura a été retrouvé hier mort et démembré dans le nord-est du pays.
Vive émotion au Brésil après le meurtre d'un jeune homme originaire de la RDC, battu à mort sur une plage à Rio de Janeiro.
Washington enverra un navire et des avions de combat aux Émirats face aux Houthis au Yémen.
Le président russe Vladimir Poutine espère une solution à la crise sur l'Ukraine tout en s'en prenant aux États-Unis. Voilà pour les titres, le journal maintenant.
Dans le face-à-face de ce soir, Sénégal-Burkina Faso en demi-finale de la CAN, nous nous intéressons ce matin à l'équipe du Sénégal après avoir présenté hier les atouts du Burkina Faso pour ce derby. Au regard des statistiques, les poulains du coach Daliou Cissé partent largement favoris. De Yaoundé, le journal de la CAN avec Emmanuel Juntap. Bonjour Emmanuel.
Bonjour. Quoique favori sur le papier, le Sénégal ne veut pas crier victoire avant le coup de sifflet final contre le Burkina Faso ce soir. Le premier à avoir de la retenue est le coach des Lions de la Teranga, Aliou Cissé. Nous l'écoutons en conférence de presse d'avant-match au micro d'Amédine Sy.
Le Burkina, c'est une très belle équipe qu'on connaît. Il faisait partie de notre poule lors des éliminatoires de la Coupe du Monde en 2018. Si je me rappelle bien, ce fut deux matchs quand même âprement disputés. Mais entre-temps, l'équipe a changé. Pas là, mais il y a une nouvelle génération qui arrive, qui est très prometteuse, qui est en train de faire de très très bonnes choses.
Deux entraîneurs locaux dirigent les équipes du Burkina Faso et du Sénégal. Une marque de confiance que l'ancien capitaine des Lions de la Teranga apprécie bien, Aliou Cissé.
Ça veut dire qu'il y a des techniciens. Voilà, nous voulons nous imposer, nous voulons montrer que nous sommes capables de faire, qu'on n'est pas moins compétents que les autres. C'est aux dirigeants de nous faire confiance.
L'enjeu d'une place en finale ne met pas de pression au jeune milieu de terrain sénégalais et de Sochaux, Joseph Lopi.
Ça reste un match de football qu'il faut bien aborder, qu'il faut bien préparer. On sait qu'on a en face de nous un très bon adversaire qui a mérité sa qualification, qui aura envie aussi de gagner, de continuer l'aventure. Nous aussi, on a envie de gagner, on a envie de continuer l'aventure. Donc, ce sera un match disputé.
Joseph Lopi, l'international sénégalais au micro d'Amédine Sy. Comment la presse sénégalaise entrevoit-elle la demi-finale Sénégal-Burkina? Amédine Sy a recueilli quelques réactions des confrères sénégalais.
Nous allons assister impérativement à un match qui sera âprement disputé. Surtout que les deux équipes n'ont pas la même façon d'aborder les rencontres. Le Burkina Faso qui a montré effectivement qu'elle reste cette équipe teigneuse sur qui il faut compter pour aller jusqu'au bout. Mais en face, on aura aussi une équipe du Sénégal qui depuis 1960 cherche sa première étoile. Je pense que ce match-là ne sera pas une partie de plaisir.
C'est à l'équipe nationale du Sénégal de montrer la même attitude que la précédente car l'équipe a un peu monté en puissance. Ils ont un peu quand même élevé leur niveau de jeu même s'ils ont en face un adversaire qui coriace, qui ne va pas se laisser faire.
On verra un match très 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 physique entre deux formations qui iront au duel, ça c'est sûr. Les étalons burkinabés ne pensaient pas arriver à ce stade de la compétition. Ils pensent qu'ils peuvent décrocher cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais devant, il y a la dernière équipe finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Algérie. Pour moi, ça sera un match très 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 fermé et une bataille surtout au milieu de terrain. Et je rappelle que le Sénégal a les atouts pour, mais les étalons aussi ont les atouts pour.
Le Sénégal et le Burkina Faso qui ouvrent le bal des demi-finales ce soir au stade Omnisports de Yaoundé ont des trajectoires différentes. C'est ce qu'explique dans le coup de sifflet du jour Jules Valentin Ngoué depuis Libreville.
Bonjour. Jusqu'en 1998 et l'organisation réussie de sa phase finale de la CAN, alors que jusque-là, le pays des hommes intègres ne figurait même pas dans le quota du football continental, où il n'avait fait que deux incursions furtives catastrophiques au Ghana en 1978 et en Afrique du Sud en 1996. Le succès sportif acquis à Ouagadougou, avec à la clé une quatrième place méritée à domicile, allait changer la trajectoire du football burkinabé. Ce sera plus tard une deuxième place en 2013, suivie d'une médaille de bronze en 2017 en terre gabonaise. Un héritage exceptionnel laissé par la génération dorée des Traoré, Pitroipa et Bansé, qui a fait du Burkina Faso l'exemple le plus abouti de pays émergent de football en Afrique. La nouvelle génération assume avec décontraction cet héritage, puisque la voilà campant de nouveau à la table des grands. Le Sénégal, lui, n'a pas le même profil. Toujours présent, toujours placé, mais jamais gagnant, ce roi sans couronne, unique à son genre, par la pléthore de talents que lui procure une politique de formation tout azimut, clôturée par des réussites individuelles exceptionnelles dans les championnats les plus relevés de la planète, est la parfaite antithèse de son adversaire du soir et le prototype de la sélection de gala qui refuse de devenir une équipe. Mais là, en terre camerounaise, chez le frère ennemi, tout un pays et toute une tanière ne rêvent que d'une chose, assurer à son profit la passation de service. Pour cela, il faut d'abord passer par une victoire contre le Burkina Faso ce soir, ce qui est loin d'être acquis. À bientôt.
Jeudi, au stade d'Olembé, deuxième demi-finale. L'Égypte, cette fois champion d'Afrique, affronte le Cameroun, qui a remporté le trophée à 5 reprises. C'est terminé pour le journal de la CAN de ce matin. Amédine Sy, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Emmanuel, merci. Dans le reste de l'actualité, en Guinée-Bissau, le président Oumarou Sissoko Embalo assure contrôler la situation après que des tirs nourris ont retenti mardi après-midi dans le secteur du palais du gouvernement à Bissau. Il déplore toutefois des morts et des blessés, Abdourahmane Dia.
Face à la presse dans la soirée de mardi, le président de la Guinée-Bissau, Oumarou Sissoko Embalo, a indiqué que la tentative de coup d'État dans l'après-midi avait fait plusieurs blessés graves et des morts. « Les assaillants auraient pu me parler avant ces événements sanglants », a-t-il dit à la presse. Il n'a pas désigné clairement les auteurs du coup de force, mais l'a attribué aux décisions qu'il a prises, notamment dans la lutte contre le narcotrafic et la corruption. Après plusieurs heures de confusion dans la capitale Bissau, il a d'abord envoyé un message sur Twitter pour rassurer. « Je vais bien, alhamdoulilah, Dieu merci », a-t-il dit. « La situation est sous contrôle gouvernemental ». Selon différents témoignages, des hommes en armes sont entrés en début d'après-midi dans le complexe du palais du gouvernement où devait se tenir un conseil des ministres extraordinaire en présence du président et du premier ministre Nuno Gomes Nabiam. La CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU ont condamné ce qu'elles ont qualifié de tentative de coup d'État. Au cours des derniers mois, le président Embalo était à couteau tiré avec le premier ministre et la menace d'un limogeage de ce dernier et d'une dissolution du Parlement planait constamment sur la vie politique nationale.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, demande aux partis en conflit en Éthiopie d'observer la trêve olympique et d'arriver à une cessation immédiate des hostilités dans la région du Tigré, alors que le peuple éthiopien continue de souffrir énormément du conflit. Le point avec Jacques Aristide.
Pour le chef de l'ONU qui s'apprête à se rendre en Chine pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver, la tradition de la trêve olympique remonte à des millénaires. Antonio Guterres est d'avis qu'un arrêt des affrontements en Éthiopie permettrait un accès humanitaire efficace et des secours à toutes les populations touchées dans tout le pays. Ces actions contribueraient à ouvrir la voie à un dialogue national inclusif, indispensable, impliquant tous les Éthiopiens, ajoute-t-il. Depuis novembre 2020, les forces pro-gouvernementales éthiopiennes affrontent des rebelles du Front de libération du peuple du Tigré. D'après l'ONU, près de 40% de la population dans la région du Tigré, qui compte 6 millions d'habitants, souffre d'une pénurie extrême de nourriture, largement provoquée et entretenue par le conflit.
Le meurtre d'une rare brutalité d'un jeune homme originaire de la République démocratique du Congo, battu à mort sur une plage à Rio de Janeiro, a suscité une vague d'indignation au Brésil où des célébrités lui ont rendu hommage. Moïse Kaba Gambé, 24 ans, a été tué le 24 janvier près d'un kiosque de la plage de Barra da Tijuca où il travaillait. Selon des témoignages de sa famille, il aurait été roué de coups par plusieurs agresseurs après avoir réclamé le versement de 2 journées de salaire impayé.
Au Burundi, le corps d'un jeune albinos de 4 ans, enlevé samedi à Bujumbura, a été retrouvé démembré mardi dans le nord-est du pays. Les détails avec Rosine Munezero.
Abdul était un albinos âgé de 4 ans. Il a été enlevé samedi par un groupe de 3 hommes à bord d'un taxi, alors qu'il jouait avec d'autres enfants dans le quartier de Kinama, dans la périphérie de Bujumbura, selon le porte-parole de l'association Albinos Sans Frontières, Shadrak Nahumuremi. Ses ravisseurs ont alors pris la route de la province de Chankuzo, située à 230 km de Bujumbura, où ils l'ont tué et démembré. Un enfant qui gardait du bétail les a vus et a donné l'alerte, ce qui a permis l'arrestation de 2 des 3 malfaiteurs, a indiqué M. Nahumuremi. Une 20aine d'albinos ont été tués au Burundi depuis 2008 et leurs membres sont souvent revendus en Tanzanie, où ce genre de rituel est courant. Shadrak Nahumuremi demande aux autorités de durcir les sanctions pour les crimes contre les albinos. Il demande aussi que la population comprenne que les albinos sont des êtres humains comme eux, qui doivent être respectés comme toute autre personne.
Vladimir Poutine a dit mardi espérer que l'Occident et la Russie trouveront une solution à leur crise, tout en accusant Washington d'user de l'Ukraine comme d'un instrument pour entraîner Moscou dans un conflit armé. Le point avec John Linden.
J'espère qu'au final, nous trouverons une solution, même si ce n'est pas facile, a-t-il dit, après avoir estimé que le principal objectif des États-Unis est l'enlisement de la Russie et que l'Ukraine est leur instrument pour nous entraîner dans un conflit armé et nous frapper des sanctions les plus dures. Le président russe n'a fait aucune mention des dizaines de milliers de soldats qu'il a déployés aux portes du territoire ukrainien depuis des semaines et qui laisse penser au monde occidental qu'il prépare une nouvelle attaque contre son voisin après l'invasion de la Crimée en 2014. Monsieur Poutine a dépeint un scénario catastrophe relevant que si l'Ukraine devenait membre de l'OTAN, elle tenterait par la force de reconquérir la Crimée. Vladimir Poutine a jugé en outre clair que les États-Unis et l'OTAN ont choisi jusqu'ici d'ignorer les préoccupations de la Russie pour sa sécurité.
Washington enverra un navire de guerre et des avions de chasse pour aider les Émirats arabes unis contre les Houthis après plusieurs attaques de ces rebelles yéménites contre ce pays du Golfe, a annoncé donc le gouvernement américain ce mercredi dans un communiqué. Ce déploiement pour aider les Émirats arabes unis pour faire face à la menace actuelle fait suite à un appel téléphonique entre le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, et le prince héritier d'Abu Dhabi et dirigeant de facto du pays, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, a indiqué l'ambassadeur américain aux Émirats.
Nouvelle fusillade aux États-Unis. 2 agents de sécurité ont été tués mardi par un homme armé sur une université, une petite université privée de Virginie aux États-Unis, tandis qu'un élève a été abattu et un autre blessé devant une école du Minnesota. Par ailleurs, plusieurs universités et établissements d'enseignement supérieur noir ici aux États-Unis ont reçu hier des menaces d'attentats à la bombe et ont confiné leurs étudiants dans leurs chambres et demandé aux autres de rester chez eux 24 heures après que des menaces similaires ont forcé à l'annulation de classes dans d'autres établissements.
Pfizer a demandé hier l'autorisation en urgence aux États-Unis de son vaccin contre le COVID-19 pour les enfants âgés de 6 mois à 4 ans, qui deviendrait alors le premier disponible pour cette tranche d'âge. Par ailleurs, un sous-variant de la souche du coronavirus Omicron, qui, selon certaines études, pourrait être plus contagieux que la version originale, a été détecté dans 57 pays, a annoncé mardi l'OMS. Omicron, qui se propage et mute rapidement, est devenu le variant dominant dans le monde depuis qu'il a été détecté.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, les militaires au pouvoir ont dévoilé lundi un ensemble de mesures, le MPSR, Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration, a rendu public ce qu'il a appelé un acte fondamental. Il rétablit la constitution qui a été suspendue et permet ainsi au pays de fonctionner en attendant une charte de la transition. Les réactions de quelques analystes à Ouagadougou avec notre correspondant Lamine Traoré.
Selon l'acte fondamental rendu public lundi, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba devient président du Faso, chef de l'État et le chef suprême des armées. L'acte fondamental comprend 8 titres et 37 articles. La junte, elle, est composée d'un président assisté de 2 vice-présidents et d'un coordonnateur. Le MPSR devient l'organe central de définition et d'orientation de la politique sécuritaire, économique, sociale, de développement et de la restauration de l'intégrité territoriale. Le mouvement sur la continuité de l'État en attendant la mise en place des organes de la transition. Ce sont là les grandes lignes de ce document.
Cet acte fondamental doit permettre aux autorités de pouvoir prendre beaucoup de décisions en attendant de rédiger la charte de la Constitution.
Albert Nagreogo, directeur de publication du site Libre Info.
Cet acte fondamental a été pris pour permettre de lever la suspension de la Constitution. Vous avez vu que dans la foulée, le directeur général de l'Agence nationale de renseignement a été démis de ses fonctions. Le chef d'état-major général des armées a été démis de ses fonctions également.
Tazien, juriste et analyste politique.
L'acte fondamental du MPSR vient compléter le bloc de constitutionnalité. S'il faut faire une analyse comparée, une approche comparée avec le Mali, c'est que l'acte fondamental également des autorités militaires au Mali a les mêmes dispositions. Donc on peut se dire que si politiquement, juridiquement également aujourd'hui, les deux actes tendent à se rapprocher.
Enfin, Siaka Koulibaly, analyste politique, y voit déjà le déroulement de la transition politique.
L'ouverture d'une transition politique dont la durée reste à définir, qui sera aussi dotée d'un certain nombre d'organes transitoires, en particulier un président de transition et un parlement de transition, étant donné que l'organe juridictionnel est déjà permanent, le conseil constitutionnel est déjà là, la grande justice elle-même est là également. Donc il va s'agir donc de pourvoir à l'exécutif, présidence de la transition, et au Parlement.
La junte dit rétablir la Constitution dans ses articles qui ne remettent pas en cause l'acte fondamental. Elle l'avait suspendu à la prise du pouvoir lundi. D'ailleurs, le procès Thomas Sankara qui a été suspendu jusqu'au rétablissement de la Constitution va se poursuivre. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
En République centrafricaine, le dialogue voulu par le président Faustin Archange Touadéra est dans l'impasse. Le retrait de l'opposition du comité préparatoire en octobre dernier freine le processus. L'opposition reviendra-t-elle à bord après l'abandon ce lundi des poursuites judiciaires contre ses députés? De Bangui, ces précisions de notre correspondant Freeman Sipila.
En octobre 2021, le président de l'Assemblée nationale, Simplice Mathieu Sarandi, réactive un dossier judiciaire relatif à une demande de levée d'immunité des députés, leaders de l'opposition, Anissé Georges Dologuélé, Martin Ziguélé et Aurélien Simplice Zingas. L'opposition se retire du comité préparatoire du dialogue annoncé par le président centrafricain. Une position dénoncée par Faustin Archange Touadéra dans son adresse à la nation à l'occasion du nouvel an.
J'ai souhaité que le dialogue république soit organisé pour nous permettre d'entrer dans la nouvelle année les cœurs légers pour le bien de tous. Malheureusement, tirant prétexte d'une demande de levée d'immunité parlementaire régulièrement introduite par la justice Et concernant 3 députés de la nation, une partie de l'opposition démocratique a retiré ses représentants du comité d'organisation du dialogue, paralysant ainsi le fonctionnement du dit comité. Arrêtons de prendre en otage notre pays pour satisfaire les intérêts personnels ou étrangers.
Après des mois de tensions entre pouvoir et opposition, le médiateur entend relancer le processus du dialogue. El Hadj Moussa Laurent Gonbaba a rencontré la semaine dernière les partis politiques de l'opposition.
On a cherché à mieux comprendre les vœux de l'opposition et je crois que je suis bien doté aujourd'hui pour remonter ces éléments-là à qui de droit.
Tout le monde veut aller au dialogue, affirme Cyriaque Gonda, président de la CO de 2020, la coalition de l'opposition démocratique.
Nous avons mené une discussion très fructueuse avec le médiateur. Il faut que ce dialogue se tienne afin que nous abordons les grandes questions, la souffrance du peuple centrafricain. Je crois qu'après cette discussion, nous avons des pistes pour que les positions bougent et on attend de voir comment ça va bouger.
Quelles lignes doivent bouger pour permettre le retour de l'opposition dans le comité préparatoire du dialogue? L'une des revendications, c'est l'abandon de la procédure de levée d'immunité contre les députés Anissé Georges Dologuélé, Martin Ziguélé et Aurélien Simplice Zingas, accusés de connivence avec l'ancien président François Bozizé. Cette décision est-elle synonyme de retour de l'opposition? Martin Ziguélé, ancien Premier ministre.
C'est ensemble, sur une même liste, que nous avons envoyé des représentants à ce comité préparatoire. Il y a cette situation qui est apparue hier et nous devons nous réunir pour qu'ensemble on prenne une décision. C'est une question politique qui engage l'ensemble de l'opposition démocratique.
Freeman Sipila, Bongui pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
Le groupe suédois kényan Opibus a introduit au Kenya le premier bus électrique conçu et fabriqué en Afrique, ce qui va aider à lutter contre les problèmes de pollution. Opibus, qui fabrique déjà des motos électriques, prévoit aussi de commercialiser le bus dans d'autres pays africains d'ici à l'année prochaine. De Nairobi, un reportage de Juma Majanga, récit de Jacques Aristide.
Les véhicules polluants sont partout à Nairobi, mais Benjamin Maina n'en conduit pas. Son bus est entièrement électrique.
I feel privileged.
Je me sens privilégié au volant de ce véhicule. C'est aussi très étonnant lorsque vous conduisez ce véhicule par rapport au véhicule à carburant. Il n'y a pas de secousses et bruit, l'électrique est assez silencieux et très élégant.
It's quite silent and very slick.
Les transports publics au Kenya et surtout le continent africain sont en grande partie gérés de manière informelle, sans règles, notamment contre les véhicules polluants. Jane Akumu est du programme environnemental des Nations Unies.
If you look at the cities, the heavy duty vehicles, which are buses and trucks.
Les villes regorgent de véhicules tels que les bus et les camions. Ils sont un gros contributeur à la pollution, mais ils représentent aussi une opportunité. Car comment passer à des modes de transport plus propres? Parce que nous avons besoin que les transports en commun soient durables pour rendre les villes plus durables.
Les bus électriques de la compagnie Opibus veulent aider à combattre le problème de pollution. Albin Wilson travaille pour le groupe.
Ce bus électrique est une première étape importante dans la transition des véhicules à carburant vers l'électrique. Et je pense que nous montrons la voie en étant les premiers sur le marché avec ce bus qui, de plus, est fabriqué localement.
Le marché des voitures électriques en Afrique, actuellement à ses premiers balbutiements, est susceptible d'attirer des investissements et de créer des emplois, d'après les experts. Jane Akumu, de nouveau.
Notre source d'électricité est renouvelable. Par exemple, en Éthiopie, il s'agit presque de 100% d'énergie renouvelable, l'hydroélectricité et autres. Au Kenya, c'est plus de 90%. Donc nous avons de l'énergie. Nous n'avons pas besoin d'importer des combustibles fossiles, essence, diesel et tout ça. C'est aussi une très bonne opportunité pour les emplois qui favorisent l'écologie.
Alors que la pollution de l'air est toujours un gros problème, la transition vers les véhicules électriques est vue comme une priorité. Elle offre également des avantages à ceux qui font le changement, comme le conducteur Benjamin Maina.
Le mois de février 2022 marque 80 ans d'existence de la VOA, la Voix de l'Amérique. En moins de deux mois après l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, le service américain d'information étrangère, devenu plus tard la VOA, a diffusé sa première émission en Europe le 1er février 1942. Aujourd'hui, la VOA diffuse en 47 langues. Eric Manirakidza a joint Claude Porcella, un des anciens chefs du service francophone, aujourd'hui VOA Afrique.
Le rêve de tout journaliste et l'ambition de tout média, qu'il soit de la presse écrite ou télévisée ou radio, est bien sûr d'avoir un scoop, d'être le premier à annoncer une information. On en a eu le cas tout récemment avec la retraite du juge Breyer de la Cour suprême, et NBC était toute fière de pouvoir dire nous avons annoncé la nouvelle, même si c'est simplement une ou deux minutes avant les autres, mais nous avons été les premiers. Donc en ce qui concerne la Voix de l'Amérique, on a toujours préféré être prudent et favoriser l'exactitude plutôt que la rapidité. Et c'est un petit reproche qu'on a pu faire à la Voix de l'Amérique, que certains de nos collègues ont peut-être pu faire, certains de nos compétiteurs. Mais l'avantage avec cela, c'est que quand vous avez une information, vous vous assurez avant de la diffuser qu'elle est correcte. Donc, il faut au moins une deuxième source pour pouvoir confirmer une information. Et ça a été la règle au cours des 35 années que j'ai passées au cours de ma carrière avec la Voix de l'Amérique.
80 ans après, est-ce que la charte a évolué ? Est-ce qu'elle a changé ?
Cette charte avait été établie, et j'étais présent à l'époque, sous la présidence de Gerald Ford, qui avait succédé à Richard Nixon, pour assurer que l'intégrité des journalistes était assurée. Grâce à cette charte, les journalistes ont été protégés de pressions excessives de la part de l'administration en place, qu'elle soit démocrate ou républicaine. Et à cet égard, je ne pense pas que les choses aient changé. La mission de la Voix de l'Amérique est clairement définie. C'est de donner des informations claires et exactes. C'est aussi de présenter la politique américaine et la façon de vivre des Américains, les American Way of Life, au monde. Et ce sont ses missions principales. Et aussi donner à ceux qui ne sont pas du même avis la chance de s'exprimer, c'est-à-dire que des adversaires de l'administration en place avaient aussi le droit d'entendre sur la Voix de l'Amérique.
Le commentaire, par exemple, c'est un genre journalistique qu'on ne voit pas très souvent à la Voix de l'Amérique, à votre époque aussi.
Eh bien, écoutez, c'est justement ce souci de neutralité, d'impartialité, le fait que la Voix de l'Amérique est un organisme d'information et non pas de commentaires et d'opinion. Et en ce qui concerne le service francophone de la Voix de l'Amérique, c'est extrêmement important, cette idée de confirmer une information, car surtout à une époque où la mésinformation domine, un organe comme la Voix de l'Amérique ne peut pas se permettre de lancer comme ça des nouvelles qui ne sont pas vérifiées, car les conséquences pourraient être trop graves.
C'était Claude Porcella, que vous connaissez très bien. Il est ancien chef du service francophone de la VOA ou VOA Afrique. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia et Nanit Talani. À la mise en onde, Michel Joseph. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.